Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Héros d'une vie et Chamerois pour son écran de veille qui va revenir sur le deuxième épisode de Koh-Lanta après avoir passé à la Moulinette le premier. Notre invité culture, c'est Hippolyte Girardot pour le film La Daronne et puis Hélène Manarino sera avec nous pour dresser son portrait inattendu. Dans Les Indispensables, Louise Bernard va nous parler d'un documentaire consacré à l'humour et Marion Sauveur va nous donner des recettes pour épater ses invités. Je sais un peu ce qu'il y aura. Il y aura du barbecue. Ce était sponsorisé par Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
Bonjour Bertrand. Mais quel talent de comédien. Bonjour, rebonjour Eva.
Oui, rebonjour Philippe. Rebonjour Bertrand et rebonjour à tout le monde.
On commence par vous, Bertrand Chamerois. C'est votre écran de veille. Vous surveillez à votre façon un programme télé des dernières 24 heures ou du week-end en l'occurrence. Qu'avez-vous regardé? Je pose la question alors que je l'ai dit.
Eh bien oui, nous sommes lundi et le lundi c'est
Ravioli.
Et non, on ne dit plus ça depuis 1983, Eva. Le lundi c'est Denis Brognard. Débrief donc du deuxième épisode de Koh-Lanta la semaine dernière. Nous avions quitté mon chouchou, François le Basque, au bout du rouleau, déçu de sa pêche infructueuse, condamné à poursuivre l'aventure en caleçon après avoir perdu son maillot sur l'île. Mais Lara Fabian ne disait-elle pas « J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort ». Eh bien oui, cette semaine, la chance a tourné pour François. Yes ! Écoutez-moi cette joie basque, plus réjouissant que la victoire d'une épreuve, plus exaltant que la pêche d'un poisson de 3 mètres, François a retrouvé son maillot de bain.
Non.
Oui.
C'est pour ça qu'il crie.
Oui. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Un speedo de perdu, 10 de retrouvé, victoire ! Mais de courte durée. Car Koh-Lanta, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et après celui à la praline, François a pioché celui à la cerise et au kirsch.
À la fin de l'épreuve, François s'est fait mal en rejoignant ses coéquipiers pour fêter leur deuxième place. Une grosse douleur au mollet d'un coup.
Une blessure sur une célébration d'épreuve à laquelle il n'avait pas pu participer, qui l'a contraint à quitter l'aventure. François, un Koh-Lanta de seulement 2 épisodes, dont un en slip, mais à jamais dans nos cœurs. Bah oui, non, mais c'est qu'on s'attache à ces candidats, hein, car vous le savez, les émissions de télé-réalité, ce sont avant tout des aventures humaines extraordinaires, mais pas Koh-Lanta. Non, ce jeu, c'est plus que ça. Ce ne sont pas des amis qu'on s'y fait, c'est plus beau, plus fort.
On n'est même pas une équipe, on est une famille depuis plusieurs jours, on s'entend vraiment bien.
Eh oui, Koh-Lanta, c'est une famille. Quand Aubin parle de Carole, une de ses coéquipières, il le fait les trémolos dans la voix.
Moi, ça me déchire le cœur de prendre cette décision-là. T'es vraiment la maman du groupe. Mais moi, ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur de me dire que tu mérites ta place et qu'il faut t'éliminer ce soir.
Ça lui déchire le cœur, mais à l'approche du conseil, on sent quand même que le fiston d'adoption s'est fait quelques points de suture au niveau du cœur.
C'est vrai que ça m'arrange que Carole puisse sortir ce soir, simplement parce que moi, ça me permet de rester.
Ben oui, une vraie famille, on vous dit. Enfin, famille à Noël, entre le fromage et la bûche, après 12 kirs et 3 bouteilles de crémant.
Si t'as le collier que tu te fais pas éliminer,
j'ai pas de collier.
Tu te feras éliminer le
j'ai
point d'après.
J'ai pas de collier.
On parle
j'ai pas de collier.
On verra au conseil pour un peu faire le show là. On verra au conseil.
J'ai pas de collier.
On verra au conseil.
Tu veux que je me mette à poil? Est-ce que tu veux que je me mette à poil?
Si tu veux.
Oui. Carole proposait donc de se mettre à poil pour prouver qu'elle ne cachait pas de collier d'immunité sur elle. Alors, l'histoire ne dit pas si elle a mis ses menaces à exécution, mais toujours est-il qu'elle a été éliminée à l'issue du conseil. Ah, la famille, il n'y a que ça de vrai.
Merci Bertrand Chamerois. Eva, avec vous, on passe au zapping du lendemain. Vous savez déjà ce qu'il va y avoir de très très fort ce soir.
Comment
vous avez
fait-elle
déjà vu. Eh bien, elle voit les programmes en avant-première.
Elle voit tout en avance, exactement.
Alors, le thème du jour.
C'est David Bowie qui vous répond.
On peut être des
héros
juste pour une
journée.
Voilà,
les héros du quotidien. Alors, il y a ceux qui mettent leur vie en péril tous les jours pour sauver nos vies. C'est le cas des pompiers. Le 11 septembre 2001 à New York, 110 d'entre eux sont morts sur le site du World Trade Center. Et à quelques jours de cette triste date anniversaire, eh bien, RMC Story redonne la parole à ceux qui ont vécu ce drame. Le capitaine Jay Jonas est un des premiers à intervenir avec les hommes de sa caserne. Et au fur et à mesure des événements, eh bien, tous comprennent qu'ils peuvent mourir à chaque instant.
Nous nous sommes arrêtés et nous avons pris le temps de nous serrer les mains et de nous souhaiter bonne chance. J'espère vous voir plus tard. Et c'est bon de vous connaître. Je suis le seul de ce groupe à avoir survécu. Ils sont tous morts.
« C'est un documentaire inédit à voir sur RMC Story, le récit de plusieurs témoins qui étaient pris au piège dans les deux tours ce jour de septembre et dont la vie a totalement été bouleversée. Mais l'héroïsme, c'est autre chose aussi. L'héroïsme a longtemps été et reste évidemment encore l'apanage du milieu sportif. Et bien ce soir, parmi les héros qui ont fait bouger les lignes, vous allez découvrir Annette Kellerman, une des premières grandes championnes de natation. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est une féministe agacée de devoir porter des vêtements trop encombrants et trop lourds, évidemment une fois gorgée d'eau. Alors elle va se dépouiller. Elle va se dévoiler, elle va se présenter en maillot moulant et surtout, elle défie les hommes dans les eaux de la Seine en 1905.
Au terme des 11 km, Annette Kellerman arrive en 4e position, laissant derrière elle la moitié des concurrents. Tous des hommes. Mais son maillot continue à défrayer la chronique. La même année, elle est arrêtée à Boston pour indécence. La frontière de la pudeur est encore bien défendue.
Coup de cœur pour ce documentaire qui est diffusé sur France 3 et qui raconte la création des plages depuis la fin du XVIIIe siècle. Le réalisateur Emmanuel Blanchard ausculte notre littoral sous l'angle historique, sociologique, artistique. C'est absolument passionnant. Tout autant que cet autre documentaire qui est proposé par France 4 et qui rend hommage à d'autres héros, les enseignants. Vous le savez, hein, depuis le confinement, il y en a beaucoup qui le reconnaissent. Hein. Nolwenn, par exemple, dans son école élémentaire en Bretagne, elle a choisi d'instaurer la démocratie participative avec les enfants. Et ça marche. Alors, enfin presque. Exemple, quand il s'agit d'aménager la cour de récréation.
Bah, en fait, là, un problème. Parce qu'en fait, là, on ne sait pas si c'est foot ou basket. Parce que si c'est foot, en même temps c'est basket, ça dérange les autres qui font du foot.
Pourquoi on a fait un terrain pour courir et un terrain pour jouer au ballon ?
Parce que moi, j'avais décidé ça.
Ah oui, tout seul. Oh non, on a discuté, non, pour décider.
Et vous entendrez le petit garçon chuchoter quelques secondes plus tard. Moi, je ne suis pas d'accord. Toujours sur l'aménagement de la cour. C'est un documentaire réjouissant qui met en avant le travail de 4 enseignants qui croient en leur métier malgré toutes les difficultés. Je récapitule donc. Le héros pompier, c'est dans Pris au piège. C'est un documentaire à voir sur RMC Story à 21h05. La nageuse héroïque affiche ses exploits dans l'Odyssée des plages sur France 3 à 21h05. Et ses profs, ses héros, sont à voir sur France 4 à la même heure dans Au bonheur d'être prof.
Et heureusement qu'il y a le replay parce que les 3 programmes sont en même temps.
Donc et oui, je suis désolée.
Il faut avoir 3 paires d'yeux.
Exactement.
Merci Eva Rock. À demain Bertrand Chalot.
À demain.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Hippolyte Girardot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes comédien, vous avez vu la dernière fois dans ce studio et sur les écrans, dans Je ne rêve que de vous, vous incarniez Léon Blum, c'était avec Elsa Silberstein. Changement de registre cette fois avec La Daronne qui sort mercredi, film Europe 1, un partenaire Europe 1, je m'en réjouis. Film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. Vous savez quoi, une fois n'est pas coutume, on va démarrer par la bande-annonce.
Elle est où la tarpade ? La tarpade, bordel !
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
Antera Fihaj Bissabab, Tijarat Al-Mohadirat.
Merde ! Mika, trouve-moi ce camion.
Khadija, il y avait combien dans ce camion ?
Il y avait au moins une tonne. Il n'est pas parti en fumée.
Billets de banque et drogue, il est mignon celui-là.
Il est où le shit de monsieur ? Eh, il cherche !
Devant un demi-mètre de frappe à 250.
Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là.
La galérance, elle est finie.
Anna, madame, bin Barka, il y a Dartmark.
Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris. On est incapable de la choper.
Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez patate.
Ça fait toujours plaisir hein, quand le client est content du produit.
Tu sais pourquoi ces types t'ont frappé ? Parce que ce shit-là que tu leur vends, il est à eux.
Et on dit comment, gros dos dans le fion en arabe ?
Sbak bir fezouk.
Gros son et ça parle arabe. Et il y a une raison, Hippolyte Girardot.
Eh ben oui, parce que notre héroïne... Donc, qu'on appellera la Daronne, incarnée par Isabelle Huppert, est une interprète judiciaire, c'est-à-dire c'est, et qui parle arabe. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui est mandaté par un enquêteur, un commissaire, peu importe, pour traduire les suspects qu'on a arrêtés quand on ne comprend pas leur langue.
Ouais. Et aussi, elle fait les écoutes téléphoniques. Et ils se parlent en arabe.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on met quelqu'un sur écoute qui parle en arabe, on a besoin d'une interprète qui nous dit ce qui est en train de se dire. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'elle se trouve. C'est-à-dire que c'est une sorte... Ce qui est intéressant, c'est une interface, disons, ouais, entre la police et les trafiquants, enfin, peu importe, les dealers. Et c'est parce qu'elle est à cet endroit-là, exactement à cet endroit-là, entre deux antagonistes, qu'elle se retrouve à se faire elle-même une proposition malhonnête, mais compréhensible.
Alors, il faut le dire, pourquoi c'est compréhensible, c'est que sa maman était dans un EHPAD, sa maman est très malade, elle n'a pas assez d'argent, elle la sort de l'EHPAD, elle a une infirmière qui s'occupe de sa maman, et elle découvre à un moment donné, au cours de l'enquête, qu'un des types qui est arrêté, qui fait du trafic de cannabis ou de shit ou je ne sais quoi...
C'est la même chose.
C'est, oui, c'est vrai, vous avez raison, je ne suis pas connaisseur, et le fils de l'infirmière. Et elle décide de le couvrir, et finalement, elle se met dans le trafic. Alors,
elle se met dans le trafic par... Il y a deux choses. Il y a effectivement un besoin financier, donc ce que tout le monde comprend. Mais il y a aussi chez elle une sorte de sororité qui s'opère avec cette femme qui s'inquiète pour son enfant et qui fait un travail très difficile parce que s'occuper des vieilles personnes en EHPAD, il faut être très patient, il faut être très gentil, faut faire beaucoup d'efforts sur soi. Et elle a une sorte de complicité avec cette femme. Et c'est à cet endroit-là, pour sauver son fils, en fait, qu'elle triche vis-à-vis de sa mission.
Mais ce dont on n'a encore pas parlé, Hippolyte Girardot, c'est de votre personnage. Vous parlez de complicité, vous êtes le commandant de police, c'est votre première grosse enquête, mais vous êtes aussi l'amant de la traductrice, c'est-à-dire d'Isabelle Huppert.
Voilà, alors évidemment, tout ça serait beaucoup moins marrant s'il n'y avait pas effectivement cette proposition de comédie qui est qu'effectivement Isabelle Huppert se retrouve être ma chérie, celle que j'aimerais, avec qui j'aimerais vraiment avoir une grande histoire d'amour. Mais je suis son employeur, je suis commissaire, et donc évidemment elle va me trahir, et c'est évidemment à cet endroit-là qu'il y a la possibilité d'une comédie, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de la comédia dell'arte pour le moment, à cet endroit-là en fait.
C'est de la comédie, oui, mais c'est très très fin comme comédie.
Oui, non, mais c'est pas du tout...
Quand ça démarre, on n'est même pas dans la comédie, on est dans un vrai polar.
C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire à partir du moment où elle fait ce pas de côté, à partir de ce moment-là, on peut s'amuser et faire de la comédie aussi.
Oui, c'est un film en plusieurs étapes. Au début, c'est très réaliste, après ça devient loufoque, après même barré. Après, dans la troisième partie, c'est beaucoup, beaucoup plus sensible entre vous et Isabelle Huppert. C'était un choix du réalisateur ou vous l'avez joué comme ça?
Non, je pense que le réalisateur a fait cette proposition que moi je trouve très juste par rapport au personnage, qui est que le centre n'est pas leur histoire d'amour. Néanmoins, c'était important que les sentiments qui s'expriment entre ces deux personnages soient des sentiments qui nous semblent sincères, vrais et profonds finalement entre eux. Et donc, effectivement, la douceur du personnage du commissaire, qui n'est pas du tout un cliché d'un gros macho qui viendrait à la fois imposer sa sexualité et son métier, c'est un choix que Jean-Paul Salomé et moi avons fait et qui marche, je trouve, à l'écran très bien.
Mais il y a un moment donné, elle est elle-même en train d'écouter sa propre voix, avec toute son équipe, parce qu'une voiture a été sonorisée, mais elle l'ignore, et vous ne reconnaissez pas sa propre voix. Vous êtes sourd ou vous la protégez ?
Non, je crois qu'il ne la reconnaît pas. On ne peut pas reconnaître quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
C'est-à-dire que les choses les plus évidentes peuvent être sous vos yeux. Si vous n'avez pas envie ni de les voir, ni de les entendre, vous serez incapable de le voir. D'ailleurs, c'est une des techniques, par exemple, qu'on emploie dans les... dans des manipulations d'espionnage. C'est-à-dire d'aller tellement loin dans l'évidence que pour quelqu'un qui est soupçonneux, ça ne peut pas être là. Ça n'est pas possible. C'est trop fort.
Ouais, vous restez avec nous. On a plein de choses inconnues à apprendre de vous. Justement, Hélène Manarino arrive dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Hippolyte Girardot.
Oui.
Vous êtes ici pour parler de La Daronne, le film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. Hippolyte Girardot, je vous présente Hélène Manarino.
Chantez Hélène.
Qu'on pourrait presque appeler la baronne.
La daronne ?
Non, la baronne.
Ah, la baronne.
Mais non, la daronne, c'est le film, la baronne.
Oui, je sais, merci. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Hippo, tout simplement, comme la plupart de vos proches vous nomment. Il va être question surtout de jeu et d'amusement ce matin et depuis toujours. Oubliez votre vrai prénom, Frédéric, pour s'appeler Hippolyte suite à un jeu avec vos copains à l'adolescence. Mais dans les différents jeux de votre vie, il y a votre jeu déjà un peu secret, votre activité, le dessin. Vous avez toujours un carnet et un stylo sur vous. Et d'ailleurs, lorsque vous étiez en tournage en Roumanie, il y a quelques années, vous envoyez des dessins par fax à vos enfants. Hippolyte Girardot, vous êtes souvent placé en tant que maître, le maître, pour faire croire aux enfants de la famille que vous étiez vraiment en colère après une bêtise. Ils ne savaient jamais, mais absolument jamais, si vous les disputiez pour de vrai ou pour de faux. Mais vous vous rattrapiez en tant que maître du jeu lorsqu'il s'agissait de mettre en scène votre nièce et votre fille quand elles étaient petites et qu'elles inventaient des pièces, des impros avec un théâtre en carton. Vous, Hippolyte Girardot, vous étiez très sérieux. Elles étaient sous votre direction. Et on va évoquer justement peut-être la carte que vous préférez abattre. Celle d'un jeu, attention au jeu de mots, de cette famille. 7, C-E-2-T-E. Pas mal.
10 familles. Waouh, voilà. Pas mal.
Une famille remplie de fous rires le dimanche à Roconcourt, une famille très nombreuse. D'ailleurs, votre maman cache systématiquement une fève par part pour les 7 galettes pour que tout le monde puisse être roi.
C'est vrai ?
Ou reine.
Mm-hmm. Ouais. Mais c'est nul si tout le monde a la fève.
Quoi ?
Si tout le monde l'a.
Non, c'est pas nul.
Ah ouais,
c'est, au début, c'est. Et puis à la fin, c'est drôle. Comme toujours. C'est une question de dosage.
C'est tout naturellement qu'Hippolyte Girardot, vous êtes le roi de la vanne. Vous aimez faire systématiquement des imitations en ouvrant des bonnes bouteilles.
Mmh. Ah bah oui. Écoutez, c'est ça. Mais après, en avoir ouvert quelques-unes alors, parce que je ne me souviens pas spécialement de ces imitations que j'ai vu faire.
Donc là,
je suis en train de, moi personnellement là, je suis en train de me faire la liste des espions et espionnes que vous avez interviewés.
Vous le faites en toute
discrétion.
Et c'est
comment les accents ?
Parce que ça ne se voit pas que vous êtes en train de faire ça.
Non, mais c'est mon métier.
Ouais. Rien ne vous fait vraiment peur, Hippolyte Girardot, même si vous avez déjà, malgré vous, joué à un jeu dangereux sur le tournage de Hors la vie. Vous interprétiez un otage pour les besoins d'une scène. On vous avait enroulé de scotch comme une momie, du scotch sur la bouche et le nez, en serrant très très fort. Et vous deviez vous débattre dans le scénario, sauf que vous le faisiez vraiment, car vous ne pouviez plus respirer.
Ouais.
Et vous avez dû attendre quand même de longues minutes avant que l'on vienne vous libérer. Et ça reste aujourd'hui la peur de votre vie.
Une grande, grande peur, effectivement. C'était affreux.
Alors, c'est difficile de contrôler les choses, comme ce jour où vous avez garé votre vélo en bas de chez vous, vous descendez pour le récupérer et vous voyez un homme passer devant vous en roulant tranquillement en vélo. Et là, vous vous dites...
Mon vélo ?
Eh bien oui, c'était le vôtre.
Non.
Il vous l'a piqué devant vous. Vous lui avez couru après, quand même. Alors,
ok, j'ai ma liste.
Ouais. C'est pas fini. Il est temps de parler de votre divertissement du moment, la cuisine. Vous faites des recettes chez votre maman, vous les imprimez avec une belle mise en page, avec de la couleur, comme un menu d'un restaurant gastronomique. Le bœuf haché au basilic, mais pas seulement, les pâtes à la saucisse et à la tomate aussi. Et apparemment, vous faites aussi les meilleures pommes sautées. Bon. Et quand vous mettez dans la peau d'un chef... On peut jouer aussi au jeu des 7 différences puisque vous ne rangez absolument rien. Alors il est temps d'évoquer le plus beau rôle de votre vie où vous pourriez ne jamais arrêter de jouer, celui de papa. Les crocodiles, les crocrocos, c'est la berceuse que vous chantiez. Côté musique, vous les avez ensuite baignés
ouais.
Là-dedans. Monsieur Bob Dylan, évidemment. Et vous êtes passé à la lecture de Tom Tom et Nana, également un papa qui pouvait faire honte à ses filles devant leurs copines en faisant semblant de se prendre la porte du salon.
Non.
Eh bien oui, vous avez fait
c'est
ça.
C'est un bon gag, ça.
Le dire.
Ouais. C'est comme se faire coincer les mains dans la porte du salon quand tu la claques.
Ouais. Tu mets tes mains, tu fais croire.
Non, tu fais comme ça, en mettant pas tous les doigts. Et donc quand tu claques, en hurlant, c'est affreux, mais c'est cruel. Ce sont les jeux cruels d'un papa, c'est tout à fait normal.
Les jeux cruels. Mais oui, tout est une question de jeu, pardon. Vous aimiez aller au cirque régulièrement, au jardin du Luxembourg, tous les dimanches matins, où vous mangez tout le temps des bananes. Alors, Hippolyte Girardot, c'est vrai.
J'adore la banane.
C'est vrai ?
Non, c'est vrai.
Et Hippolyte Girardot, aujourd'hui, votre rêve, une petite maison, une petite grotte en Bretagne. Vous saviez que le jeu serait votre vie dès tout petit, lorsque vous vous êtes émerveillé devant le tout premier film que vous avez vu, 20 000 lieues sous les mers. Toutes sortes de jeux, oui, mais ce qui fait de vous un très bon joueur, c'est que dans tout ce que vous faites, vous n'avez jamais triché. Et finalement, vous avez toujours tenu ce jeu de la vérité.
Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes
reconnue. C'est bien. Oui, non, c'est très bien, Hélène.
Ah,
franchement, vous avez fait une sorte de roman d'éléments très disparates.
Ouais.
Et oui, bah, je connais toutes vos sources, là, d'un seul coup, grâce à ce que vous avez dit, je connais toutes les sources, qui donc recevront ma visite inopinée dans les prochains jours.
Vous restez avec nous ?
Oui, bien sûr.
Hélène, on se revoit très très vite. Culture Média qui continue dans un instant, notre première incontournable, Louise Bernard, qui va nous parler du stand-up dans le monde entier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Hippolyte Girardot à l'affiche de La Daronne. La Daronne, c'est Isabelle Huppert. C'est un film de Jean-Paul Salomé. C'est un film européen qui sort mercredi. Vous jouez un flic qui travaille à la brigade des stupes et qui traque des trafiquants qui trafiquent pas qu'un peu, des grosses sommes. C'est votre première grosse enquête. Comment vous avez travaillé le rôle ? Vous l'avez travaillé ? Vous êtes allé voir des flics ou pas du tout ?
Non.
J'aime bien que ma question vous fasse rire.
Non, ça me fait rire, oui. Comment vous avez travaillé le rôle ? Eh ben, écoutez, d'abord, j'ai vraiment checké la marchandise pour voir comment ça fonctionnait. Je me suis un peu occupé du casting, donc j'ai placé quelques copains. copain avec qui j'ai pu travailler par ailleurs sur d'autres choses. Et puis pour les commissaires de police, bah, j'ai fait appel à quelques comédiens qui ont déjà joué les rôles, qui m'ont dit ce qu'il fallait faire, où était la machine à café, qu'est-ce qu'il fallait faire comme exemplaire, en combien d'exemplaires fallait faire le rapport, etc. Et finalement, ça se prépare comme ça. Non, il y a pas de préparation.
Non, vous auriez pu aller passer trois semaines chez les stupes.
Je peux aller passer trois semaines chez les stupes, mais je n'écris pas le scénario. Je suis juste en train de jouer un rôle. Donc je regarde sur le scénario ce que j'ai à dire et je me dis bah ça je peux le dire très bien. Si c'est un, voilà, c'est il y a vous savez quoi, les policiers sont des gens comme les autres. Il faut le savoir. Donc leurs émotions peuvent être les miennes. Et mes émotions peuvent être les leurs. Et donc, je peux très bien m'incarner sans problème là-dedans. D'autant que je joue aussi un amoureux transi, qui est un rôle que je connais très très bien aussi, que j'ai pratiqué depuis de nombreuses années et de nombreuses fois. Donc, effectivement, c'est assez facile comme rôle, pour moi.
C'est magnifique. Les gens qui se disent, dis donc, mais il a quelque chose, Hippolyte Girardot, voilà le niveau. Vous avez joué à la Trintignant ou pas?
Vous avez joué
à la Trintignant?
À la Trintignant, il y a un jeu à la Trintignant.
Non, c'est une expression de vous. Vous dites, moi, j'ai souvent joué à la Trintignant.
Ah oui, non, parce
le
que...
garçon ouais, charmant, mais... intelligent, le mec bien paroublard.
Oui, mais ce que je trouve bien chez Trintignant que j'ai pas, c'est sa voix, qui a un truc. C'est comme Isabelle Huppert. C'est des voix, pour moi, extrêmement mystérieuses. Je ne les comprends pas. J'adore, par exemple, la voix de Gérard Depardieu, formidable, mais je la comprends. Je comprends comment ça marche. Mais alors, Trintignant et, par exemple, Huppert, alors, je comprends pas. Et quand j'ai vu. Enfin bref, non, pour moi c'est très mystérieux, donc ouais. J'aimerais bien avoir. Mais sur les personnages qu'il a pu incarner, oui, j'ai plus un tempérament comme ça qu'un tempérament, disons, plus exubérant, ou ce que je regrette, mais toujours, j'ai vu le fanfaron je ne sais combien de fois, je vois Trintignant, je me dis, ah ça serait un rôle que j'adorerais faire, mais je vois Gaspard et je me dis, mais ça serait mon idéal d'être cet homme-là, donc c'est très particulier.
Louise Bernard, bonjour.
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 Bonjour. Louise Bernard, vous avez l'habitude de nous conseiller des spectacles d'humour, mais ce matin, c'est un documentaire qui a attiré votre attention, mais un documentaire sur l'humour quand même.
Évidemment, la semaine dernière, un soir, tard, j'ai eu envie d'humour, de stand-up, donc j'ai pris ma télécommande pour parcourir le catalogue Netflix sans trop de conviction. Farid, déjà vu, Baptiste Le Caplain, pareil. Tiens, pourquoi pas Blanche Gardin? Ah, mais c'est quoi ça à côté? Voulez-vous rire avec moi ce soir? Suivez l'humoriste Yacine Bellous dans ce tour du monde pour découvrir comment les grands noms du stand-up font rire dans les autres pays. Bah, l'idée m'a plu, alors je me suis lancée.
Donc on va en savoir un peu plus que la description de Netflix, grâce à vous.
Oui, c'est mon métier. C'est un tour du monde du stand-up, ou plutôt des stand-up. C'est un voyage qui vous amène des caves berlinoises au Comedy Club new-yorkais, avec pour guide l'humoriste français Yacine Bellous, qui mène extrêmement bien le documentaire. Il faut dire qu'il maîtrise bien le sujet, puisqu'il a lui-même fait l'expérience de l'humour à l'étranger, en jouant son spectacle dans 18 pays différents. Là, il nous emmène dans un peu moins de contrées, 7 seulement. L'expression tour du monde, c'est donc un petit peu exagéré, mais ça n'en est pas moins passionnant. Donc, pays par pays, 38 comiques témoignent de leur propre expérience, font un état des lieux du stand-up dans leur patrie, parfois un éclairage historique ou mentionnent leurs références. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est quand ils racontent leur expérience de changement de langue.
C'est-à-dire ?
Les comiques n'ont pas été choisis par hasard. Nombreux sont ceux qui jouent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle ou qui ont déjà fait l'expérience de se produire à l'étranger. Il est alors question de l'universalité de l'humour. Comment fait-on rire dans un pays qui n'est pas le sien et dans une langue qui n'est pas la sienne? Donc on rencontre un Belge à la conquête de New York ou bien le formidable comique anglais Eddie Izzard qui est capable de jouer dans 4 langues différentes qu'il maîtrise parfaitement et il espère en apprendre d'autres. Ou bien encore il y a l'humoriste canadien Mike Ward qui est connu pour ses sketchs en français et un jour il est passé à l'anglais.
La pire chose je pense qui peut arriver à un humoriste c'est de devenir connu. Parce que quand tu deviens connu, même si c'est pas drôle, les gens rient. Quand j'ai recommencé en anglais, pour moi, c'était comme naturel d'aller jouer ailleurs, mais c'était vraiment... Moi, c'était pour sortir de ma zone de confort, tu sais. C'était juste pour voir, est-ce que je suis quand même encore drôle dans des places qui me connaissent pas?
Des places, des endroits, ouais. Évidemment, on aura compris. Jouer en anglais, c'est ce que font les nombreux humoristes qui se rendent au Fringe à Édimbourg. Je ne sais pas si vous connaissez...
Pas du tout.
C'est un...
Jamais entendu ce nom-là.
C'est le plus grand festival artistique du monde. Il y a 2 700 000 visiteurs à chaque édition. Chaque jour, 3 500 spectacles de l'impro. Ouais.
Ouais. C'est joué partout. Hein. C'est joué absolument partout à Édimbourg. Édimbourg, c'est une ville avec une grande colline, etc. C'est assez joli, d'ailleurs, très très beau. Et c'est joué absolument partout, dans les pubs, dans les rues, bien évidemment, mais aussi dans des petits garages, sur des bateaux. Enfin, c'est assez incroyable comme festival.
Voilà, et donc il y a du stand-up et des humoristes qui s'essayent en langue anglaise, donc face à un public dont ils n'ont pas pas du tout l'habitude, et pour la petite anecdote, surtout quand il est très tard le soir.
Il y a des shows spéciaux, il y a des late night shows, des trucs super tard où les gens viennent sous et le public te démonte. Le show est comme ça, il est connu pour ça. Et donc les comiques acceptent comme un défi et quand tu sors de là, tu es fier. Puis il y en a d'autres qui sortent complètement détruits parce que c'est vraiment un truc. Ben moi pareil, moi je ne m'inscris même pas là-bas.
Moi je ne savais pas, moi je l'ai fait ce show-là, puis je ne savais pas.
Voilà. Et le plus intéressant, c'est sûrement la dernière partie du documentaire. Yacine Bellou se rend dans deux pays qu'on n'associe pas tout de suite à l'humour, l'Allemagne. Et donc oui, il y a des stand-uppers allemands, mais on apprend qu'ils sont nombreux à avoir commencé à jouer en anglais avant d'assumer de le faire en allemand. Et il y a surtout la Russie. On découvre l'existence de cette toute petite scène de stand-up très récente. Ouais, 13 ans seulement, les premiers comiques ont démarré il y a 13 ans.
Ils ont le droit.
Et ben voilà, la question de la censure se pose, c'est évidemment la première qui nous vient en tête. Oui. Et ben faudra regarder le documentaire pour voir la réponse des humoristes, c'est sur Netflix, voulez-vous rire avec moi ce soir?
Merci beaucoup Louise Bernard, Fringe, comment vous êtes retrouvé là-bas? Vous connaissiez
Russie,
ou pas
hein, est-ce que, et la censure, non ça marche très très bien, d'ailleurs ils ont ouvert une petite scène en Sibérie orientale, où on les met en général et ça se passe très bien, ils ont leur public,
ils
ça rigole beaucoup.
Ils sont entre eux. Comment vous avez découvert Fringe, le festival?
C'est un truc assez connu quand tu vas en Angleterre, que tu travailles en Angleterre, tu parles avec les comédiens et il y en a beaucoup qui vont faire leur spectacle là-bas. Par exemple, le gars qui a le rôle principal de Peaky Blinders, il a fait il y a très longtemps un spectacle très joli sur sa mère, un truc tout seul avec un magnétophone, qui est un magnifique petit spectacle et il est devenu connu comme ça en fait.
Ouais. Et vous allez comme ça, vous êtes allé une fois ou vous êtes retourné?
Une fois seulement. En plus, il y a quand même quelque chose, c'est que c'est compliqué de se loger, donc moi j'avais un copain qui m'avait hébergé, mais sinon c'est assez compliqué de se loger. Et puis au bout d'un certain temps, parler anglais, entendre parler anglais, écossais, etc., c'est très fatigant quoi. Moi je suis bilingue un peu, donc, mais à ce point là non, à un moment donné la tête explose quand même.
Explosez pas, restez encore avec nous jusqu'à 11h.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Hippolyte Girardot, La Daronne, c'est mercredi sur les écrans, mais là on va parler gastronomie. Marion Sauveur, bonjour.
Bonjour.
Hasard du calendrier, on va encore parler de Netflix, mais c'est comme ça, on est une quotidienne et parfois on parle deux fois du même sujet, mais c'est pas le même sujet puisque la 7e saison de la série documentaire Chef's Table a débarqué mercredi donc sur Netflix et Marion, elle est consacrée uniquement au barbecue.
Et on découvre que c'est un véritable art hein, ce barbecue, on suit 4 grillardins champions dans leur domaine. Alors il y a Tootsie au Texas qui a 85 ans et elle nous fait saliver avec ses viandes caramélisées, elle cuise pendant des heures sur le feu et son restaurant a été élu meilleur barbecue du Texas quand même. Rodney Scott en Caroline du Sud qui cuit des cochons entiers. On a Rosalia Tchouk au Mexique hein, qui cuisine comme les Mayas encore aujourd'hui. Et Lenok Axi en Australie qui maîtrise le feu comme personne et qui sort des plats gastronomiques de l'entrée au dessert. On est donc loin de nos saucisses grillées au barbecue en France.
Donc vous allez donner une recette d'un cochon grillé entier?
Et non, pas du tout.
Alors
pas
c'est
du
quoi
tout. Alors 3 recettes un petit peu pour épater vos invités. Alors on commence par une entrée, des champignons farcis de blettes et de fromage frais. Donc il suffit de saisir vos blettes entières au barbecue.
Prenez des notes, hein, Hippolyte.
Non mais j'écoute la blette là.
Vas-y. Donc là il faut être sur feu vif. Hein. On est dans le feu. Elles vont commencer à se flétrir. Donc là on les enlève, on les hache, les côtes et les feuilles, et on les mélange avec le fromage frais, le parmesan, l'oignon émincé, de l'ail haché et des petites noix pour ajouter un petit peu de goût. On rajoute les pieds des gros champignons et là on farcit les têtes des champignons. Par-dessus, on ajoute du parmesan et on met ces champignons au barbecue à feu vif. Et vous allez voir, ils seront prêts. Ils vont se flétrir un petit peu, ce sera délicieux.
Bon, c'est technique. On passe au plat. Pas de saucisse donc?
Non, pas de saucisse. Un saltimbocca de veau. Alors, le saltimbocca, c'est une recette italienne. Hein, une fine escalope de veau farcie de jambon cru, de sauge. Mais on va la revisiter un petit peu puisqu'en ce moment, c'est la saison de la figue. Donc, on va prendre des escalopes de veau bien fines. Si vous ne les avez pas fines, vous tapez vos escalopes de veau entre deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà, rouleau à pâtisserie. Sur la viande, on dépose la tranche tranches de jambon de Parme. On découpe surtout la tranche de la même forme que l'escalope, hein, pour que ça rentre bien à l'intérieur.
Ah oui.
Les rondelles de figues, un petit peu de tomme de brebis pour la gourmandise. Et puis, on roule ces escalopes, on les ficelle avec un petit peu d'huile d'olive par-dessus et on fait cuire ces saltimbocca en cuisson, donc cette fois indirecte, pas directement sous le feu, à feu moyen, et on retourne régulièrement.
Vous sauriez faire ça?
Non, mais attendez, parce que moi, le barbecue, c'est pas ça. Hein. Le barbecue, c'est on se met autour d'un espèce de feu
mais
sur lequel
non,
on a
justement.
Posé une grille. Bah justement, on va pas faire de la cuisine, on va poser des merguez, des chipots, écoute-moi, on va mettre tout ça en bordel, et la seule chose qu'on va faire, on va boire une bière en discutant. Ouais. Ça ne sert que à ça, le barbecue. C'est pas pour faire de la cuisine, c'est juste pour être autour d'un espèce de feu où on se prend encore des cow-boys de l'ancien siècle. C'est quand même ça. Idéologiquement, c'est ça l'idée. C'est pas pour faire de la grande cuisine.
On
va pas mettre
allumer,
de la gastronomie
d'ailleurs.
Partout quand même. Ouais. Hein. Qu'est-ce que c'est ennuyeux.
On pourrait faire une tarte aux pommes au barbecue.
Mais on n'a pas besoin de faire une tarte aux pommes. Tu achètes des pommes et tu les croques en faisant tourner ta petite saucisse. C'est
non,
ça le barbecue.
Non.
Attends, on va enchaîner. Parce que vous avez une recette de tarte aux pommes
mais
au barbecue.
Une tarte rustique aux pommes. Attendez, vous faites caraméliser
rustique.
Vos pommes tranchées avec un petit peu de beurre et de sucre, un petit peu de cannelle si vous aimez ça. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une poêle en fonte hein, pour le faire cuire sur le barbecue. Sinon,
encore
on va
mieux.
Abîmer
ouais.
ça.
À quoi sert le barbecue? Juste une poêle en fonte qu'on met dessus.
Mais une petite poêle en fonte, on en a. Demandez à votre grand-mère, je suis sûre qu'elle en a
ma grand-mère tranquille où elle est. Et la tarte rustique. Mais toutes les tartes sont rustiques. C'est ça l'idée de la tarte aux pommes.
C'est ça, mais rustique, c'est celle où on va rabattre la pâte,
ah oui.
vous savez, les rebords sur les
ah oui,
pommes
sinon
directement.
Elle est chic.
Voilà, alors pour pouvoir faire cuire cette pâte directement sur le barbecue, l'idéal, c'est d'avoir du coup une plaque à pizza. Vous savez, une pierre à pizza, puisqu'on peut aujourd'hui faire cuire même des pizzas au barbecue. Si vous avez cette pierre que vous avez fait chauffer
quoi,
un petit peu sur votre
c'est
barbecue.
Génial. À la fin, vous réussissez à faire tellement de trucs autour, avec, machin, en dessous du barbecue, c'est comme, comment vous dire, c'est comme une belle cuisinière, voilà, une belle cuisinière, voilà, ça ressemble à ça finalement au barbecue, et t'as envie de dire oui, d'accord, très bien, et l'idée au départ?
Non, mais d'ailleurs, vous seriez surpris puisque ce week-end, il y a un championnat de France du barbecue. Alors, ça, c'est à Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue.
Et
du coup, ils cuisinent des choses extraordinaires comme ça. Alors, peut-être pas des tartes, mais ils font plein de petits gâteaux, plein de choses, du dessert, de l'entrée, des burgers, plein de choses différentes.
Des macarons,
il faut aller voir
même.
Si
des petits macarons. Des petits macarons au hachis de veau, il paraît. C'est très barbecue.
Mais vous l'avez testé, la tarte aux pommes sur le barbecue ou pas?
Mais oui, bien sûr, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, très bien.
Et est-ce que c'est mieux qu'au four ou à la poêle?
Ah, c'est différent. Vous savez, le charbon de bois, ça apporte un petit goût plus rustique, justement, à cette jolie tarte aux pommes avec ces pommes caramélisées au milieu.
Ça a bien avec la chantilly. En plus, on retrouve vos recettes sur europe1.fr. Vous aimez cuisiner quoi, Hippolyte Girardot? Tout à l'heure, Hélène Manarino
disait
que vous étiez...
Des herbes. Des
ah oui
herbes.
Voilà, quel genre d'herbes?
Il faut calculer des herbes et puis les mettre sur n'importe quoi et voir comment ça marche après. Ça, c'est bien de cuisiner ça parce que c'est subtil puis c'est long.
Des herbes, mais quel genre d'herbes? Je pense au
Il y a plein de petites herbes dans le monde.
D'accord.
Oui,
bien sûr.
Etc. Le chanvre aussi, qui est un truc qui donne un goût un peu pâteux, mais c'est pas mal.
On a bien compris le genre d'herbe qui donne un goût un peu pâteux. Vous restez avec nous, Philippe Girardot, bien sûr.
Mais
on voit très bien, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Hippolyte Girardot à l'affiche de La Daronne qui sort après-demain, un film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, film Europe 1. C'est tiré d'un roman d'Anne-Laure Kerr qui avait gagné le prix Le Point du Polar Européen, le Grand Prix de littérature policière et qui avait été élu meilleur polar 2017 par le magazine Lire. Rien que ça, vous l'avez lu avant de faire le film?
Non, pas avant. Je l'ai lu, je l'avais acheté. Hein.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le truc. Ça, je vais le lire. Ça, je le mets là, je vais le lire. Puis il y en a un deuxième qui arrive après celui-là aussi. Je vais le lire. Puis il y a des piles comme ça. Donc,
d'avance, vous saviez que vous vouliez le lire?
Oui. Parce que franchement,
film arrivait.
La proposition me semblait vraiment intéressante. Et c'est vrai quand le bouquin est très intéressant. Le film, c'est une adaptation assez juste, puisqu'elle l'a fait, elle a travaillé dessus aussi. C'est une adaptation assez juste de son roman. Mais c'est néanmoins assez différent. Par contre, il y a quelque chose qui est là et qui est. Parce que c'est une avocate pénaliste.
Ouais.
Et donc, les dialogues, elle a une oreille, elle se souvient de tout. Et tous les dialogues sont formidables et ça vient aussi directement du bouquin. Elle a vraiment une oreille. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'elle a vraiment la mémoire de ce qu'elle a entendu. C'est formidable.
Louise Bernard, je me tourne vers vous parce que vous aviez lu le roman.
Oui, avant l'été. Je ne savais même pas que ça allait être adapté et je l'ai découvert après avoir fini le livre. Et j'avais un petit peu peur de l'adaptation parce que j'ai adoré le livre.
Ouais.
Et je me suis dit, il faut faire attention à ce que ça fasse pas pas un côté téléfilm. J'ai pas encore vu le film.
Ah, ça fait pas téléfilm.
Quand j'ai vu le casting, déjà, je me suis dit, c'est génial parce qu'ils ont trouvé les bons acteurs pour que ça fasse un bon film.
Vous verrez, il y a
une
différence. On fait pas les mêmes choses dans un bouquin qu'on peut faire dans un film. Je vous dis pas, mais ça fait pas du tout.
Mais peut-être sur votre relation avec Isabelle Huppert, c'est peut-être un peu plus développé parce que dans le livre, c'est un peu effleuré.
Tout à fait.
Et là, quand j'ai vu que vous étiez à l'affiche, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être développer ça. Donc, c'est intéressant.
Moi, j'ai pas lu le livre, mais justement, Salomé dit qu'il a étoffé le rôle du flic.
Louise, non ?
Ouais, pour quelle raison ?
Vous voulez redire un truc qui a déjà douzé ?
Non, je voulais avoir votre avis. Ma question était pour quelle raison ça a été étoffé ?
Parce que je pense que c'était pas la peine, en fait, d'avoir un personnage qui est important quand même dramatiquement dans l'histoire, sans lui donner un peu une existence. Mm-hmm. Et donc, je pense que ça, c'était le choix de Salomé et de Anne Lorquer, de se dire autant faire de cette histoire une vraie histoire, sinon c'est pas la peine. Et ça donne aussi au personnage d'Isabelle. Quelque chose de sentimental qui n'est pas seulement avec sa mère ou avec sa fille, mais aussi avec un homme. Et je pense que ça fonctionne bien dans... Moi, je pense que ça donne de la puissance au personnage de la daronne.
Et ce qui est fou, c'est que l'histoire personnelle des parents de Patience, c'est le prénom du personnage d'Isabelle Huppert, est un peu une version romancée de l'histoire des parents d'Anne Lorquer.
Un peu. Mais ça, je connais pas assez, mais j'en ai entendu parler de cette affaire.
Donc tout ça est vrai et est pas vrai. Vous avez été nommé 3 fois au César. Dont 2 fois pour le meilleur espoir masculin, en 85 pour le bon plaisir, en 90 pour Un monde sans pitié. Vous savez pourquoi je vous en parle ? Parce que en avril dernier, à Télérama, il dit ça, Hippolyte Girardot, il dit « j'en ai marre qu'on m'ait vu comme le grand espoir du cinéma français, ça ne m'allait pas ». Il dit, je vous cite, « l'espoir c'est la mort, dès qu'on espère on souffre, il faudrait supprimer cette catégorie des Césars ». Je me dis, c'est pour faire un bon mot, vous le pensez vraiment ?
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tombées du train dans cette catégorie espoir qu'on a vu et puis finalement qu'on a parfois jamais revu, et je pense que c'est assez violent. D'abord, c'est mettre les enfants à l'école primaire, en gros. C'est-à-dire que, tant que vous n'avez pas prouvé qui vous n'étiez pas vraiment un acteur, mais vous étiez un espoir d'être un acteur, et donc ça, je trouve ça pas très juste. Et puis, c'est une tendance un peu paternalisante, comme ça, de considérer les nouveaux arrivants. Et il n'y a que nous qui avons cette catégorie, je pense, dans toutes les récompenses mondiales nationales de cinéma. Je pense qu'il n'y a que nous.
Ils vont être contents de vous entendre au César. Merci beaucoup Hippolyte Girardot. Je rappelle La Daronne, qui sort. On va bien voir comment ça tourne cette affaire. La Daronne, ça sort mercredi, film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, film Europe 1. Demain, 9h, Culture Média avec Gaspard Ganzer, l'ancien communicant de François Hollande, ancien candidat à la mairie de Paris. Vous savez ce qu'il fait ? Il fait sa rentrée à la télé sur C8 avec Cyril Hanouna dans Balance ton poste. Il sera dans ce studio. Harry Habitant pour apprendre la télé, un téléfilm touchant consacré à la trisomie 21. Et puis juste après le flash, Anne Romanoff avec Ça fait du bien. J'ai pas salué Marion Sauveur, j'ai pas salué Louise Bernard, je le regrette. Je vous salue. Salut Hippolyte Girardot, bonne journée à tous.
Et merci beaucoup.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.